Buenos días y muchas gracias por estar aquí. Hoy estamos con uno de los escritores más celebrados en este momento en la literatura francesa, Philippe Claudel, autor de ya una buena cantidad de novelas, entre ellas Las almas grises, La nieta del señor Lin, La encuesta, El informe de Brodeck. Y también, sus novelas han sido recibidas increíblemente por el público francés y por la crítica. Y no conforme con eso, Philippe Claudel se ha dedicado también a hacer cine con la misma pasión con la que escribe. Ayer se proyectó su película Hace mucho que te quiero en el Hay Festival. Y según tengo entendido, tiene terminado otro largometraje que se llama Tout le soleil. Bienvenido, Philippe Claudel.
Gracias.
Y me gustaría empezar a hablar de esto, ¿no? Usted tiene, vous avez deux amours. La literatura y el cinema, ces deux amours simultanés. J'aimerais bien que vous nous parliez en termes amoureux de ces deux relations que vous entretenez.
Oui, j'ai la chance d'avoir deux maîtresses, plus une épouse tout à fait légitime qui est l'enseignement, parce que je suis toujours professeur à l'université et j'ai toujours plaisir à rencontrer des étudiants et à essayer de transmettre les petites choses que j'ai pu apprendre. Mais pour venir précisément à votre question, la littérature et le cinéma, effectivement, je ne les ai jamais considérés comme des travaux, comme quelque chose qui a à voir avec un métier, mais véritablement comme des passions amoureuses, comme des moments de vie qui permettent justement à la vie de se grandir, d'atteindre des moments d'intensité, de joie, de frisson qu'on n'a pas l'habitude de ressentir peut-être dans le quotidien. Maintenant, j'ai beaucoup de difficultés à séparer l'écriture et le cinéma parce que ça a toujours été deux désirs créatifs parallèles et qui ont fini par se rejoindre. Mais très petit, j'ai eu envie de raconter des histoires et j'ai eu envie de raconter des histoires aussi bien avec les mots qu'avec les images. J'ajouterais aussi peut-être une troisième dimension qui est la peinture. La peinture a toujours été très importante dans ma formation et dans mon existence. J'ai beaucoup dessiné et peint moi-même et c'était aussi une forme de, comment dirais-je, de zone intermédiaire justement entre la sphère de la littérature et puis celle du cinéma. Mais le désir de raconter des histoires, c'est vraiment ce qui est au centre de tout. Ensuite, il y a la forme à choisir. C'est-à-dire soit on choisit de les raconter avec des mots, en utilisant le langage, en travaillant tout seul, soit on conçoit une histoire pour qu'elle soit racontée en termes visuels, avec l'utilisation de comédiens, de lumière, de sons, de costumes, avec donc l'aide des autres, c'est-à-dire d'une équipe technique et artistique qui vient près de vous et qui vous aide à réaliser ce qui est dans votre esprit. Et c'est ça qui est assez magique dans le cinéma, c'est que c'est un art, mais c'est aussi une industrie, c'est très lourd, ça coûte très cher, et tout cela au service d'une seule personne qui, à un moment, dans son esprit, imagine une histoire. Donc, ce qui me plaît beaucoup dans le cinéma, c'est le côté très enfantin. C'est comme la prolongation des jeux d'enfance. Lorsqu'on dit, toi, tu seras la princesse, moi, je serai le dragon. On va jouer à faire croire que... Et sur un plateau de cinéma, il y a une cinquantaine de personnes comme ça qui sont persuadées que c'est la princesse, que c'est le dragon, et qui font semblant d'y croire. Donc il y a un côté extrêmement puéril, extrêmement touchant. Et je pense que la création, que ce soit la littérature, le, le cinéma, la peinture, la musique, la danse, toutes les formes d'art, la création, il me semble que c'est justement la préservation dans l'âge adulte d'une partie de cette enfance qui ne veut pas se laisser enfermer dans des codes, qui ne veut pas grandir, qui ne veut pas accepter une espèce de dictature du réel, qui ne veut pas accepter de vendre la part du rêve que tous les êtres ont un moment en eux. Donc l'expression artistique, c'est cette prolongation de l'innocence et de la folie aussi, d'une folie positive, d'une folie qui peut déboucher parfois sur des œuvres qui vont toucher les autres hommes qui nous entourent.
J'étais très surprise en lisant que vous arrivez à écrire au même temps que vous tournez un film, que pendant le tournage d'un film, vous êtes capable de sortir de la peau du metteur, enfin du réalisateur, et de vous concentrer en vous-même pour ce travail solitaire dont vous parliez, qui est l'écriture. Comment vous arrivez à faire ça ?
Je l'ai fait rarement, justement, parce que je pense que le propos que vous avez lu, le journaliste a du mal de retranscrire ce que j'ai écrit.
Ou ça arrive assez souvent.
Oui, ce que je lui ai dit, parce que justement, le problème du cinéma est que lorsqu'on est en tournage, c'est une intensité tellement haute qu'elle empêche de faire quoi que ce soit d'autre. Et pour connaître quelques écrivains qui ont mis en scène des films, je crois qu'on est à peu près tous dans la même situation, c'est-à-dire dans l'impossibilité d'écrire et de consacrer une parcelle de temps ou d'énergie ou d'imagination à autre chose. Donc j'ai très peu écrit dans les tournages les deux longs métrages que j'ai faits. J'étais entièrement aimanté par l'histoire que j'essayais de mettre en image. Et vous savez, un tournage, c'est un moment d'une grande exaltation. C'est-à-dire que du matin jusqu'au soir, on est dans une sorte de fièvre électrique. Ça peut être très ennuyeux, le cinéma, pour les comédiens, parce qu'ils attendent beaucoup entre les différents moments où ils jouent. Mais pour un metteur en scène, c'est une espèce de haut voltage, comme ça, d'électricité permanente, qui occupe toute la journée. Et la nuit est aussi occupée, puisque finalement, on revient sur ce qu'on a fait la journée. On a du mal à dormir et on est aussi dans la soif que ça continue le lendemain.
J'imagine. En fait, je vais vous poser une question maintenant que les écrivains n'aiment pas qu'on nous pose, mais que le public vraiment a toujours envie de savoir. C'est comment êtes-vous devenu écrivain, brièvement, et comment êtes-vous devenu cinéaste?
Je disais tout à l'heure que le désir de raconter des histoires est venu assez tôt. Donc lorsque j'étais enfant, comme tous les enfants, à un moment, qui ont la chance de fréquenter une école et d'avoir des maîtres, on apprend à lire, on apprend à écrire. On me lisait déjà beaucoup de livres quand j'étais petit, ma maman me lisait des livres, et à un moment, j'ai pu découvrir seul l'acte de lecture et j'ai pu déchiffrer seul des livres. Donc ça a été une étape extrêmement importante dans ma vie et dans mon imaginaire. Le fait de pouvoir m'isoler dans un coin de la maison, prendre un livre et vivre pendant quelques heures avec les personnages et l'histoire de ce livre. Au même moment, on apprend à écrire, c'est-à-dire que soudain, on nous donne ce secret, ce mystère, qui nous permet à nous, si nous le voulons aussi, d'écrire des histoires. Et tout naturellement, comme je me suis mis à lire tout seul, eh bien, je me suis mis aussi à écrire tout seul. Donc j'ai commencé à écrire des petits poèmes, des petites histoires. J'ai eu aussi un instituteur, un maître d'école, qui a beaucoup favorisé cela, dans la mesure où il nous faisait confiance et il nous demandait, à nous enfants, de venir chaque matin à l'école, ou deux fois par semaine, avec une petite poésie. C'était obligatoire. Il nous disait, vous pouvez le faire. Moi, ça m'a enchanté. Je pense que ça a dégoûté de la poésie les 29 autres élèves, parce qu'ils étaient obligés chaque semaine de venir avec des poèmes écrits. Et c'était une grande douleur pour eux. Mais pour moi, c'était quelque chose d'extrêmement plaisant. Déjà qu'un adulte me dit, mais oui, tu peux aussi écrire de la poésie si tu veux. Donc ça a été une sorte d'élément déclencheur comme ça, d'accréditation à pouvoir écrire moi-même. Donc j'avais pas d'ambition d'être écrivain. je voulais pas... D'ailleurs, j'ai toujours beaucoup de mal à me dire écrivain. Quand on me demande de me présenter, quand je remplis des formulaires dans les hôtels ou ailleurs, je mets toujours professeur, comme ça, ça évite des questions trop gênantes. J'ai du mal à assumer le statut d'écrivain, parce que j'ai beaucoup trop de respect pour la littérature. Et si je me disais écrivain, ça voudrait dire que je suis écrivain comme, je ne sais pas, Borges, Kafka, Proust, etc. Alors que ce n'est pas du tout la même chose, vous voyez. Donc, je préfère dire que j'écris des histoires. Mais donc, j'ai commencé assez tôt, et ça ne s'est jamais arrêté. Mais il y a eu un gros changement, c'est que tout ce que j'ai écrit jusqu'à l'âge de 34 ans à peu près, 35 ans, c'était très mauvais. Ça donnait des résultats vraiment médiocres. Tous les romans que j'écrivais, ou les nouvelles, ou la poésie, sur le moment, j'étais extrêmement content. Et quand je relisais le lendemain, je me rendais compte que ça n'avait aucune valeur. Et puis un jour, alors pourquoi ça n'avait aucune valeur ? Je pense que je n'avais rien à raconter, tout simplement. Je n'avais rien à dire. Il ne s'agit pas seulement de manier les mots, il s'agit aussi de les charger d'un sens humain, d'une épaisseur. Et seule, je pense, la vie, l'expérience humaine permet justement de cristalliser ces émotions et de les transmettre aux mots qu'on utilise. Je n'avais pas vécu, je n'avais pas assez aimé, je n'avais pas assez souffert, je n'avais pas assez regardé le monde, je n'avais pas assez écouté les autres. Il y a des génies parfois, il y a des Rimbaud qui à 17 ans arrivent à produire des chefs-d'œuvre, mais la plupart des écrivains, je pense, sont des êtres qui ont besoin de se frotter au réel, de fréquenter le réel et d'avancer dans la vie pour nourrir leurs œuvres. Donc ça explique en partie cette espèce de maturation plus lente qui a fait que j'ai attendu un moment avant de produire des textes qui étaient à peu près corrects.
Et pourtant, dans vos livres et aussi dans le film que nous avons vu hier, il y a une très, très grande charge, comme vous dites, humaine, de souffrance et d'expérience de vie. On sent vraiment que vous avez été près de la douleur des gens et que vous avez vu ça de près, que vous n'en vantez pas.
Oui, alors, j'ai pu, dans ma vie professionnelle... aller dans des endroits, dans des milieux qui m'ont fait rencontrer justement des êtres qui, eux, étaient pleins d'une grande souffrance ou déchirés par des expériences, par des drames qui les avaient meurtris et qui essaient de se reconstruire. J'ai beaucoup travaillé auprès d'enfants dans les hôpitaux et d'adultes aussi. J'ai travaillé en prison, j'ai travaillé avec des enfants et des adolescents handicapés physiques. Donc j'ai toujours essayé d'aller dans des lieux où les autres étaient enfermés, soit à la suite d'une condamnation judiciaire, soit à la suite d'un handicap, à la suite d'une maladie. C'est-à-dire ne participaient pas à notre communauté sociale, mais étaient dans une poche d'enfermement comme ça. Ça me paraissait important dans ma pratique de professeur d'aller vers elles et d'aller vers eux. En même temps, si j'ai pu apporter un tout petit peu de choses, j'en ai pris aussi beaucoup. C'est-à-dire que j'ai beaucoup appris de ces univers, de ces personnes, et énormément de livres que j'ai écrits, à commencer par Les âmes grises, par exemple, je n'aurais pas pu les écrire, ou ce film qui a été projeté hier, je n'aurais pas pu le concevoir si je n'avais pas, par exemple, travaillé en prison assez longuement, si je n'avais pas rencontré effectivement des femmes et des hommes qui étaient là... qui étaient enfermés, qui avaient un moment dans leur vie connu des actes tragiques ou exécuté des actes tragiques et qui subissaient cette peine. Donc voilà, tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, de près ou de loin, est le résultat en fait d'une expérience humaine. Expérience réelle dans la vie, mais expérience aussi de fréquentation des livres, puisque ceux qui écrivent des livres sont des grands recycleurs. On n'arrête pas finalement de recycler ce qui a été déjà dit. Il n'y a rien de nouveau, quelque part. On réactualise, on transforme. Il y a un mot que j'aime bien d'un écrivain français, André Gide. Il dit que on répète toujours la même chose, mais comme les hommes n'écoutent jamais, il faut toujours répéter. Et c'est un peu ça, la littérature.
Je suis d'accord. Et c'est comme si vous désiriez mettre le réflecteur justement sur la douleur, mais aussi sur quelque chose qui m'a vraiment intéressée. Je pense que ça intéresse en général les gens. C'est le fait que personne n'est en réalité un monstre ou un criminel absolu ou un ange, quoi. C'est justement ça, je pense qu'il y a dans le titre, les âmes grises, c'est ni blanc ni noir. Je pense que si on ne peut pas vous accuser de quelque chose, c'est d'être manichéiste dans vos livres. C'est comme si vous aviez un peu la mission, pour le dire d'une certaine manière, de souligner cet aspect de l'être humain qui est ambigu et qui n'est jamais sauvé ni condamné par quelqu'un qui est vraiment capable de voir une autre personne.
Oui, je crois que ça, c'est fondamentalement à l'origine, non pas du désir d'écrire, puisque je l'ai expliqué tout à l'heure, mais d'une bonne partie des livres que j'ai écrits. Je crois qu'on écrit souvent des livres pour répondre à des questions qu'on se pose nous-mêmes, ou à des peurs, à des angoisses intérieures qu'on a. Il y a beaucoup de livres que j'ai écrits jusqu'à présent qui essayent d'inspecter, d'explorer cette ambiguïté de notre nature. Je ne suis évidemment pas le premier à la dire. Il y a eu d'immenses auteurs et notamment des philosophes. Je pense à Pascal, par exemple, un philosophe français du XVIIe siècle, qui disait que l'homme était à la fois l'ange et la bête. C'est une formule magnifique qui dit ce qu'on est en train d'expliquer. Mais c'est vrai que cette double nature m'a constamment fasciné. À la fois une double nature individuelle, le fait que nous avons tous en nous, effectivement, cette parcelle d'humanité qui est juste à côté d'une parcelle d'inhumanité. Et parfois, des événements personnels ou des événements historiques arrivent à faire grandir l'une ou l'autre. Et donc, on est toujours en proie, quand on est vraiment un homme, on est en proie à ce combat intérieur, à cet équilibre des forces ou à ce déséquilibre qui fait que parfois des peuples aussi entiers peuvent s'abîmer. Mais la notion de monstre, c'est vrai qu'elle m'intéresse dans la mythologie, parce que je suis très influencé par la mythologie, et la mythologie est pleine de beaux monstres, en fait, de monstres fascinants, ou de monstres dont on s'aperçoit qu'ils hurlent de désespoir, comme le Minotaure dans le labyrinthe, le mythe du labyrinthe qui a influencé tellement d'écrivains et qui reste tellement vivace et vivant, est un mythe magnifique, parce qu'on a un monstre enfermé qui dévore, mais qui en même temps se cogne au mur et hurle sa douleur. Donc cet aspect ambigu du monstre, le fait aussi que le monstre est rare. Si je laisse la mythologie pour revenir dans la réalité, la fréquentation pendant une dizaine d'années de personnes dans une prison, qui étaient là pour avoir commis des actes parfois très très graves, me montrait que ces personnes étaient comme moi, et que j'étais comme elles. Il n'y avait pas de monstre, il n'y avait pas d'individu qui avait vraiment quitté l'humanité, qui était simplement une sorte d'incarnation absolue du mal. Je ne dis pas que ça n'existe pas, ça peut-être arriver de façon marginale. Ce qui est très grave, c'est lorsqu'ils sont à un moment dans une position de pouvoir. Je pense que Hitler était quelqu'un d'assez peu fréquentable. Donc, quand un peuple confie le pouvoir à un être comme Hitler, c'est sûr que ça ouvre sur une sorte de chaos total. Mais, heureusement, ces individus sont relativement rares dans notre humanité. Et ce qui est intéressant, c'est tous les autres, c'est-à-dire les âmes grises, c'est-à-dire nous.
Une partie que je trouve très belle dans votre film, c'est quand on ne sait pas encore les raisons profondes du crime de Juliette. et qu'on arrive à voir la beauté dans cette personne qui, a priori, est vraiment quelqu'un de monstrueux, qui a tué son propre enfant. Et donc, je sens que là, je me identifie vraiment avec vos personnages, parce que, a priori, c'est tous, ils sont vraiment beaux dans leur monstruosité. Et je trouve que vous arrivez à très bien souligner cette beauté du monstre dont vous parliez et qui influençait aussi la peinture, je voulais dire.
Oui, d'ailleurs, dans ce film, il y a une petite partie de la critique cinématographique française qui m'avait reproché la fin du film, c'est-à-dire de, quelque part, de sauver le personnage en disant « mais non, elle n'a pas tué son fils sur une forme d'impulsion, de folie ou sans explication. Elle avait une raison, ce n'était pas un vrai meurtre. Elle abrégeait ses souffrances. » Alors, ce reproche-là, je l'entends, je le comprends, mais c'est vrai que ce n'était pas mon but dans ce film. Le but, c'était de faire le portrait d'une femme qui, à un moment, avait été placée dans un choix terrible. C'est-à-dire l'amour et la mort. Aimer son fils, mais le tuer, entre guillemets, pour abréger ses souffrances. Et ensuite, en concevoir une énorme culpabilité, tellement grande que, finalement, en regard de cette culpabilité, la justice des hommes n'a aucune importance. Et donc, elle choisit de se taire, de ne rien expliquer et d'accepter une punition qui est la longue peine. Mais c'était une histoire dans laquelle je voulais montrer aussi, indirectement, comment la prison détruit les êtres humains. Ce n'était pas un film contre la prison, c'était simplement un film sur les effets de la prison. Quelqu'un, pour avoir vu beaucoup de personnes qui ont subi des longues peines, il y a effectivement une forme de mort sociale. On n'existe plus pour les autres, on est rejeté par les autres. On n'arrive plus à faire des gestes simples, comme marcher dans une ville, retirer de l'argent, téléphoner. Enfin, tout un tas de gestes du quotidien et de fragilité qui apparaissent comme ça et qui font que la personne qui sort de prison a beaucoup de mal à reprendre pied dans la vie. Donc c'était aussi un film sur ça, qui montrait comment on est quelque part détruit et comment il est difficile de se reconstruire.
Je me souviens qu'à un moment donné, ce personnage de Juliette dit « la prison est la mort de mon fils ». En fait, cette mort m'a déjà jetée en prison. Voilà. Mais on voit une deuxième prison, qui est celle que vous dites maintenant, celle du refus ou du rejet social une fois qu'on sort de là, non, de la réclusion.
Oui, je pense que là, c'est un... Il y a certains livres où j'ai parlé de ça, où il y a ce film. J'espère que ceux qui lisent ces livres ou ceux qui voient ce film changent un tout petit peu, parce que lorsque vous rencontrez dans la vie quelqu'un qui sort de prison, la réaction de la plupart des gens est une réaction relativement hostile, même si elle est cachée ou si une forme de politesse leur fait ne pas la montrer. Il y a quand même une sorte de crainte, de peur, et on voit bien que finalement, la prison, ça ne s'arrête jamais. C'est-à-dire que même quelqu'un qui a purgé sa peine, eh bien, cette peine-là, elle continue. Elle continue parce qu'elle sera ou il sera toujours celle ou celui qui sort de prison ou qui a fait de la prison. Et donc, c'est très, très difficile de changer ça dans les mentalités humaines.
Mais Juliette n'est pas le seul bon monstre dans ce film. On a aussi le gendarme, comment est-ce qu'il s'appelle ?
Le capitaine Forêt.
Voilà. On a qui se suicide à un moment donné, et puis qui est, on le sent tout de suite, empreint d'une autre prison, d'une douleur très très forte qu'il consomme. Il y a aussi la sœur qui a vécu une enfance assez étrange et qui la hante toujours. Il y a le personnage de Michel. On dirait que, et puis je l'ai lu aussi dans un autre reportage, que vous êtes pris de sympathie pour tous les paumés du monde. C'est comme ça qu'on le disait. Et puis je me demandais, est-ce que vous vous sentez vous-même un paumé ?
Bah, on l'est tous plus ou moins à certains moments. Hein. Oui, je pense. Et je pense qu'écrire ou créer des films ou des œuvres artistiques, c'est justement avoir le désir et peut-être un tout petit peu la capacité de se rapprocher de celles et ceux dont on veut parler, et notamment de celles et ceux qui souffrent ou qui sont à l'écart de la vie ou qui ont du mal à y trouver leur place. Moi, le grand plaisir que j'ai quand j'écris un film ou un livre, c'est soudain de devenir le personnage que je suis en train de décrire. Il y a une forme d'incarnation qui est assez proche, je pense, de celle que le comédien connaît quand il incarne un rôle. Dans « Il y a longtemps que je t'aime », c'est vrai qu'il y a toute une galerie de portraits de gens enfermés dans la maladie, enfermés dans la solitude, enfermés dans la souffrance, enfermés dans le silence. C'était une façon pour moi aussi de dire qu'il est très très difficile de se livrer aux autres. Il n'est pas évident en fait de trouver une oreille, de trouver une écoute attentive. Il n'est pas évident de passer le cap pour dire des choses qu'on a en nous. Et il y a bien des êtres humains qui vivent toute une vie ou une grande partie de leur vie en gardant à l'intérieur d'eux des souffrances ou des secrets ou des malaises ou des troubles parce qu'ils ne rencontrent jamais la personne qui écoute vraiment. Regardez, on fait tous cette expérience dans la vie, mais quand vous demandez à quelqu'un « Bonjour, ça va ?» si la personne répond « Non, ça va pas du tout », là, soudain, vous êtes en train de vous dire « Oh là là, mais pourquoi j'ai demandé comment ça allait ? Il va commencer à me raconter tous ses malheurs, ça va être terrible, je peux rien y faire. » Donc, on a du mal à s'ouvrir comme ça.
Et en même temps, dans la littérature, ce qu'on cherche, c'est que le narrateur, au moins, nous raconte pourquoi ça va pas. C'est comme si, quelque part, dans la lecture, on était disponible, on était dans cette ouverture qu'on n'a pas envers les autres quand on les rencontre dans la vie quotidienne.
Oui, c'est vrai que la littérature, ce qui me frappe, moi, c'est que la littérature, par exemple, se construit essentiellement sur le tragique. Y a des romans d'amour, il y a des romans qui se terminent bien, il y a des romans positifs, mais la plupart des romans qui constituent ce qu'on appelle la littérature, je ne parle évidemment pas des romans à l'eau de rose ou des romans un peu légers qui sont là pour nous distraire mais qui ne fouillent pas l'humanité. La plupart des romans, des grands romans, sont tragiques. Et la littérature est tragique, c'est-à-dire qu'elle inspecte notre ambiguïté, comme on l'a dit tout à l'heure, notre difficulté à être, notre souffrance, notre incompréhension par rapport à la vie, par rapport au monde, et cet exercice artistique trouve un public, trouve des lecteurs. Alors que, effectivement, toutes ces tragédies, ou toutes ces tragédies humaines, la plupart des gens n'accepteraient pas de l'entendre dans la bouche d'un ami ou de quelqu'un qui la lui raconterait. Mais on la recherche dans la littérature, parce que la littérature, effectivement, nous permet cette espèce d'introspection sociale, cette introspection individuelle et cette ouverture de la plaie, en fait. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours vu celui qui écrit des livres, celui qui fait des films, comme une sorte de médecin qui pratique un acte de chirurgie ou d'autopsie. C'est-à-dire qu'il ouvre un corps malade et qui essaie de voir ce qui ne va pas. Qui essaie d'inspecter au plus profond des entrailles quel est le germe nocif, quel est le cancer qui réside là, quel est ce qui fait que le grand corps ne fonctionne pas, ou le grand corps souffre. Et à partir du moment où on regarde les choses, on commence un peu à les guérir. C'est-à-dire qu'il y a aussi un acte, cet acte chirurgical, il ouvre sur une brève guérison ou une durable guérison. Il me semble que l'homme se grandit lorsqu'il regarde en face ses propres manques. Et les ignorer, au contraire, le rabaisse à une sorte d'animalité et d'ignorance qui aboutit sur rien.
Oui. C'est ce qu'on sent aussi. Quand vous parlez d'autopsie et de plaie, je pense à cette espèce d'obsession que vous semblez avoir pour la guerre et cette période de la guerre. C'est comme si vous vouliez ouvrir ce corps qu'on penserait déjà même pourri pour aller voir de quelle façon cette expérience terrible qu'a été la guerre affecte toujours la société contemporaine. Ou je ne sais pas comment est-ce que vous expliquez que vous reveniez toujours à cette période historique ?
Je pense qu'il y a plusieurs raisons. Une des premières raisons qui tient à ma vie même, c'est que je suis né et que j'habite toujours dans l'est de la France, près de la frontière allemande, une région qui s'appelle la Lorraine et qui, depuis 4 siècles, a été le théâtre de guerres extrêmement importantes au XVIIe siècle, plus près de nous à la fin du XIXe siècle, et puis, bien entendu, la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale. Il y a dans cette région et dans beaucoup de familles une sorte de mémoire génétique de la guerre et de la souffrance. Et il y a aussi un paysage qui n'arrêtait pas dans mon enfance et encore aujourd'hui, de me rappeler la présence de la guerre. Quand je marche en forêt autour de la petite ville où j'habite, eh bien, je marche encore dans des tranchées où ont vécu des soldats, je marche dans des trous d'obus, je trouve des morceaux de casque, je trouve des morceaux des obus entiers qui n'ont pas explosé. Quand j'étais enfant, je trouvais des os, des fragments de crâne. Donc cette présence de la mort à la guerre, elle est permanente. Et elle a sans doute beaucoup marqué l'enfant que j'étais. La deuxième chose, c'est que la guerre est une sorte de permanence humaine. Il n'y a pas eu un seul moment de l'histoire de l'humanité pendant lequel l'humanité était en paix. Il y a toujours un conflit quelque part. Alors, il nous touche de près ou de loin, mais l'état du monde fait que c'est toujours un état du monde en guerre. Donc, comme si finalement l'humanité était incapable de vivre en dehors de cet état de fait. Et que, quelles que soient les motivations qui les engendrent, la guerre était une expression humaine permanente et incontournable. Et ça, j'ai besoin de savoir pourquoi. J'ai besoin de savoir comment cela se fait que l'humanité n'arrive pas à concevoir des périodes de paix totale. La troisième chose qui rejoint un tout petit peu la première, c'est que je suis un homme qui est né au XXe siècle. Je suis un homme du XXe siècle. C'est-à-dire que je suis un homme de l'extermination. Je suis un homme né dans un siècle qui a enfanté la guerre totale. Où pour la première fois, finalement, les moyens technologiques, chimiques, bactériologiques, inventés par l'homme, pouvaient lui donner les moyens d'exterminer complètement son espèce. Et il s'en a fallu peu pour que ça ait effectivement lieu. Donc, il y a eu un point comme ça de bascule, un changement très important au XXe siècle. L'homme, pour la première fois de son existence, avait les moyens de détruire complètement son espèce. Et évidemment, ça engendre une crainte, une obsession, une angoisse profonde. L'angoisse de se dire qu'effectivement, l'espèce humaine, ça y est parvenue à créer ses moyens de se détruire. Donc tout ça fait que le thème de la guerre apparaît souvent dans ce que je fais. Et puis, je terminerai par une quatrième raison qui rejoint un petit peu ce que j'ai dit sur le tragique de la littérature. Il est beaucoup plus intéressant d'étudier le comportement humain dans une période de crise que dans une période où tout va bien. C'est-à-dire que vous prenez un homme, vous le mettez sur une plage, au bord d'une piscine à Carthagène, où tout va bien, où on est entre nous, où tout le monde est là pour le plaisir de la littérature, de la musique et des arts, je ne suis pas sûr que ça fasse un grand roman ou un roman très intéressant. Par contre, vous prenez ce même individu et vous le mettez dans une période où il a à choisir entre l'humanité et l'inhumanité, où il assiste autour de lui à des spectacles qui l'interrogent sur sa condition humaine, là, c'est des ingrédients qui peuvent être plus intéressants dans un roman.
C'est sûr qu'il est beaucoup plus facile d'être bon à côté d'une piscine que dans un moment où on doit choisir entre la vie et la mort. Et là, je pense à votre roman, Le rapport de Brodeck, où le narrateur raconte le moment où il a été enfermé dans un camp d'extermination et qu'il devait faire le chien et s'humilier au point d'imiter un animal pendant une longue période, alors que les autres lui disaient « Mais comment est-ce que tu peux te rabaisser de cette manière? Tu n'as pas d'intégrité, tu es une ordure. » Mais il finit par dire « Je suis le seul qui est toujours vivant. » Donc, la guerre, c'est comme une ambiance très particulière qui nous permet justement de voir cette partie monstrueuse et sa beauté aussi. Hein.
Oui, et puis ces histoires, ce sont des hypothèses, en fait, ce sont des projections. Parce que ni vous ni moi ne sachons exactement comment nous nous comporterions dans ces cas extrêmes. Donc c'est des jeux, en fait, c'est des jeux abstraits ou artificiels, mais la littérature a cette dimension de projection justement et d'expérimentation. C'est un peu lorsqu'on essaye de fissurer l'atome en laboratoire ou qu'on fait des expériences théoriques en mathématiques sur des modèles qu'on sait valables mais qu'on n'a encore pas appliqués. Donc la littérature est un laboratoire et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que je parlais tout à l'heure, on va dire que je suis obsédé par les sciences, mais je parlais de médecine, mais on est dans de la chimie quand on fait de la littérature. C'est-à-dire qu'on est dans une sorte de laboratoire avec quantité d'éprouvettes et de substances qui nous permettent effectivement, dans cet espace clos, dans lequel ensuite on invitera les lecteurs, mais de fabriquer et d'assister à des expériences humaines qui reflètent plus ou moins celles qui peuvent avoir lieu dans la vraie vie. Mais dans la scène que vous citiez du rapport de Brodeck, c'est vrai que le personnage me permettait de réfléchir sur le principe d'humiliation. Est-ce que, en s'humiliant, l'homme abdique sa condition humaine? Est-ce que, en faisant le chien à quatre pattes, comme ses bourreaux obligent Brodeck à le faire, est-ce que Brodeck perd vraiment, comme ses camarades lui disent, toute humanité? Ou est-ce que c'est lui, justement, au contraire, qui reste le plus humain de tous, en ayant compris qu'en acceptant ce jeu dégradant, ceux qui se dégradent, ce n'est pas lui, c'est ceux qui lui imposent ce jeu. Donc, voilà, c'est des scènes qui me permettent, ou qui permettent aux lecteurs qui les lisent, de réfléchir à ces idées, à ces questions. Je ne donne jamais la réponse. Ce qui m'intéresse, c'est de me servir du romanesque, vraiment de scènes romanesques, de scènes de fiction, pour poser des questions et ne jamais non plus apporter de réponse morale. Parce que, si je voulais un peu surprendre, je dirais que je n'ai aucune morale, moi. Je ne sais pas ce que c'est que la morale.
Oui, ça, on le sent très bien.
La morale, c'est un concept... alors, beaucoup seront en désaccord avec moi, notamment sans doute certains philosophes, mais c'est un concept qui est un peu à géométrie variable. Et en tout cas, je pense que ça ne peut pas être imposé par un seul. Et ça doit plutôt, évoluer au gré des circonstances et aussi au gré des attitudes humaines.
Gabriel García Márquez a dit un moment que seulement ce qui est profondément local peut être vraiment universel. Et en lisant vos romans qui sont souvent situés en Lorraine, et dans le rapport de Brodeck, il y a même le dialecte qui revient très souvent, les mots vraiment d'un petit village, et toute sa problématique de chercher une identité, etc. J'ai senti ça aussi. Donc, est-ce que vous êtes d'accord avec la formule de García?
Oui, oui, oui. Évidemment, et d'autres auteurs aussi l'ont exprimé sous d'autres formes. Je crois que le meilleur exemple, en fait, on en revient un petit peu à la mythologie, c'est les récits fabuleux d'Homère sur la guerre de Troie. Qu'est-ce que c'est que Troie? C'est un tout petit village perdu au bord de la mer. On nous raconte des histoires de chefs de village ou de chefs de clan qui s'opposent, qui se tuent, qui volent la femme de l'autre, etc., etc. Donc on est à un échelon très très local dans la guerre de Troie. On est à un échelon très local quand on a ce pauvre ou cet heureux Ulysse qui fait son périple parce qu'il n'a pas trop envie de rentrer chez lui finalement. Donc il vaut mieux prendre 10 ans avant de rentrer à la maison et découvrir d'autres choses. Mais on est dans une sorte de micro-géographie. Et des auteurs que j'admire aussi, je ne sais pas si des lecteurs ici connaissent un romancier français qui s'appelle Jean Giono. Jean Giono a situé quasiment toutes ses histoires dans le sud de la France, dans les Alpes du Sud, dans une région extrêmement localisée, mais il a une dimension universelle. Il y a un côté aussi chez lui très homérique, très mythologique. Et je me rends compte que, à la fois, en reprenant la formule de García Márquez, effectivement, ce local est très important. Ça permet souvent, pas toujours, mais ça permet effectivement d'amener vers l'universel. Et l'aspect fabuleux des récits aussi, l'aspect mythologique. Je me rends compte que de livre en livre, je m'éloigne de structures trop réalistes pour atteindre vers des figures allégoriques, des paraboles, cette espèce d'étoffe, de tissu des légendes qui finalement, les mythes, les légendes, les fables, sont des récits essentiels. Et le roman contemporain, disons depuis 4 siècles, ne cesse de recouvrir d'ornements ces fabuleux squelettes. Mais l'essentiel est là, l'essentiel réside dans ces squelettes que sont les mythes, les légendes, les fables. Tout est dit déjà dans ça.
Et par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure de la déshumanisation à laquelle un homme peut se voir obligé dans certaines périodes de sa vie, je voudrais que vous nous parliez de l'enquête. Je crois qu'il n'est pas encore traduit en espagnol, celui-là. C'est votre dernier roman, c'est ça ? Et de cette déshumanisation qu'on voit, mais qui est différente parce que ce n'est pas dans une période ou contexte de grande extermination, mais qui est aussi très intéressant.
Oui, c'est un roman qui sera traduit l'an prochain en espagnol. Je fais de temps en temps des romans qui sont des réactions à des mécanismes sociaux qui me heurtent ou qui m'intriguent. J'avais fait un roman il y a 10 années qui s'appelle J'abandonne, qui n'est pas traduit en espagnol, et qui raconte le désarroi d'un homme face aux mécanismes de la société française. Une société dans laquelle il n'arrive plus à prendre sa place, qu'il n'arrive plus à comprendre. Dans l'enquête, il y a eu des éléments déclencheurs de ce livre qui ont été, ces 2 ou 3 dernières années, des vagues de suicides assez importantes dans des grandes administrations françaises ou dans des entreprises françaises, où des salariés ou des fonctionnaires se sont suicidés sur leur lieu de travail et ont parfois laissé des lettres dénonçant les conditions de travail, dénonçant la déshumanisation dans l'entreprise.
La japonisation de la France.
Oui, peut-être. Mais en tout cas, je crois que là, il y avait des éléments qui étaient intrigants, parce que le suicide est toujours une question extrêmement dérangeante posée à l'entourage de la personne qui se suicide, posée à l'humanité même. Et lorsque le suicide a lieu sur un lieu de travail, c'est une question qui interroge aussi ce monde du travail, c'est-à-dire ce fonctionnement du monde du travail que nous avons mis en place, et notamment des structures aujourd'hui d'entreprises, on en revient aux monstres, qui n'ont plus de visage, dont on ne sait plus à qui elles appartiennent, dont il est très difficile de savoir la composition du capital, dont il est pratiquement impossible de contacter les dirigeants, impossible d'obtenir des réponses ou de porter des doléances. Donc cette espèce de monstre moderne, né du capitalisme et d'un libéralisme mondial, apparemment crée des structures impénétrables et une grande souffrance pour ceux qui les utilisent ou pour ceux qui y vivent dans le cadre de leur fonction. Donc j'ai essayé de composer une enquête en envoyant justement un enquêteur qui arrive dans une sorte de ville-entreprise. L'entreprise et la ville se confondent, un petit peu comme dans une nouvelle, vous savez, de Borges, où il imagine une carte faite par des géographes qui est une carte qui est faite à l'échelle 1, c'est-à-dire qu'elle recouvre toute la planète. Bon, ben là, l'entreprise recouvre toute la ville recouvre l'entreprise, et cet homme, on lui donne pour mission d'enquêter sur la vague de suicide. Mais en fait, il va découvrir lui-même combien ce monde met en place tout un ensemble d'embûches, de barrières, de labyrinthes, puisque c'est aussi un livre qui s'est nourri de ce mythe dont on parlait tout à l'heure, qui va l'égarer jusqu'au moment où lui-même va ressentir peut-être le malaise que ces suicidés ont ressenti.
Oui, j'allais vous dire que ce n'est pas seulement dans un contexte d'entreprise qu'on a cette sensation de déshumanisation des rapports entre les hommes. Aussi, quand on essaie de parler avec quelqu'un, avec un médecin, souvent on a un répondeur une machine au téléphone ou à la banque, on n'arrive plus à contacter un agent. C'est vraiment terrible. On a l'impression d'avoir toujours en face de nous une machine dont la mission est de nous repousser pour ne jamais avoir un interlocuteur véritable.
C'est d'autant plus paradoxal que nous sommes aujourd'hui dans une société de communication globale et constante. C'est-à-dire que nous avons inventé des objets qui nous permettent de communiquer normalement tout le temps, d'être joignables en permanence, que ce soit les téléphones portables, les smartphones, les ordinateurs reliés à Internet. Donc il y a une grande facilité à nous contacter, à contacter les individus, à échanger des informations, et pourquoi pas échanger nos peurs, nos angoisses, nos désirs, etc. Mais effectivement, le fonctionnement soit de l'entreprise, soit des services au sens large, fait que les barrières se multiplient comme si la volonté première était l'égarement, comme si on avait envie d'égarer l'individu. Je l'ai expliqué quand je parlais de ce roman en France, mais de le soumettre aussi à des tests, parce que cet enquêteur, il a l'impression que quelqu'un le regarde au-dessus et qu'il est devenu le sujet d'une expérience. C'est-à-dire qu'on a l'impression, dans bien des cas humains aujourd'hui, qu'on essaye de tester l'humain. Jusqu'où peut-il résister? Jusqu'où peut-on tirer sur cette corde ou sur ce fil avant que tout ça se brise? Donc il y a une sorte de test d'effort, un petit peu comme le hamster qui tourne dans sa cage, vous voyez, comme ça, dans sa roue, jusqu'à épuisement total. Et c'est un peu tous ces faits qui sont parfois tragiques, qui sont parfois très cocasses, qui m'ont inspiré ce livre, qui est un livre fantastique, hein, parce que c'est une dimension qui m'intéresse beaucoup, un livre fantastique, un livre parfois d'anticipation, et qui essaie de montrer justement ce désarroi, cette incohérence qui occupe une bonne partie de nos vies aujourd'hui, et que nous avons nous-mêmes produite. Parce que c'est quand même l'homme qui produit ça, c'est pas une créature différente de lui.
Vous parliez tout à l'heure de Jean Giono, et c'est vrai qu'on a souvent comparé votre écriture à la sienne. On a aussi parlé de l'influence de Georges Simenon dans vos romans. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire de vos lectures qui vous ont nourri, et aussi un peu de l'état actuel de la littérature française?
Au début où je faisais des interviews, quand j'ai publié des livres, c'est vrai que j'ai parlé de Simenon, Giono, donc les gens ont beaucoup repris ça après, mais je citais deux auteurs qui ont beaucoup compté pour moi, mais il y en a des centaines, des milliers qui ont compté pour moi. Ce que je voudrais dire peut-être pour changer un peu, c'est que on est influencé par les très bons auteurs, les très grands auteurs, mais on est aussi influencé par les très mauvais. Parce que les très mauvais livres qu'on lit, on n'a pas envie de s'en nourrir, et donc on s'en éloigne, hein, comme des pôles s'éloignent. Donc il faudrait faire un livre sur les mauvais livres à qui on doit beaucoup de choses, qui forment l'écrivain, mais en négatif.
Je suis très emballée par ce point que vous venez de toucher. Alors, parlez-nous des livres qui vous ont éloigné.
Il n'y en a pas qui me viennent à l'esprit comme ça immédiatement, parce que je n'ai jamais fait le répertoire, mais il faudrait peut-être le commencer. Non, mais plus sérieusement, j'ai toujours été influencé, ou j'ai toujours apprécié les conteurs, en fait. C'est-à-dire que je suis plus intéressé par la littérature qui raconte, qui compte. C'est pour ça que, dans bien des cas, la littérature d'Amérique centrale ou sud-américaine est pour moi intéressante, parce qu'il y a une sorte de désir, de plaisir de raconter des histoires. Mais des auteurs comme, ça fait trois fois maintenant que je cite Borges, mais des auteurs comme Borges qui arrivent à se nourrir du fond commun de la littérature, de la mythologie, qui arrivent à raconter des histoires, qui sont des mécaniques policières parfois, et qui dans le même temps ouvrent sur une dimension fantastique et métaphysique, je trouve que là c'est un exemple parfait d'œuvre d'une richesse incroyable. Dans une autre dimension, j'ai toujours beaucoup apprécié un auteur albanais qui s'appelle Ismail Kadare, qui est un grand raconteur d'histoire, justement, qui puise aussi dans les mythes de son pays natal, qu'est l'Albanie, et qui n'oublie jamais le lecteur en route. C'est-à-dire qu'il construit Moi, j'aime les auteurs qui construisent des récits haletants, des récits qui nous tiennent en haleine, qui nous tiennent suspendus. Je suis moins sensible aux auteurs qui ne se soucient que de la forme, qui construisent des livres qui ne sont que des exercices formels, dénués de sentiments ou de chair ou d'émotions ou d'interrogations, et qui jouent sur l'aspect formel de la littérature. Et ça, c'est une dimension importante de la production littéraire française, et j'en suis pas très très proche, en fait. Le livre parfait, s'il y en avait un pour moi, ou en tout cas un livre qui dépasse de loin tous les autres, je parle de la littérature française, c'est Voyage au bout de la nuit de Louis-Ferdinand Céline. Où là, justement, on a un livre écrit en 1932 qui est une bombe atomique humaine qui dit des choses pour la première fois en littérature qu'on n'avait jamais dites avant et qui propose une forme aussi nouvelle. Donc là, il y a l'alliance des deux qui fait que ce livre, encore aujourd'hui, est incontournable. Avec un débat dont vous avez peut-être suivi les échos en France cette année, récemment, puisqu'il était prévu qu'on honore la mémoire de Céline, décédée il y a 50 ans, mais il y a eu beaucoup de personnes et d'associations qui se sont scandalisées, puisque c'est vrai que Céline a écrit ce chef-d'œuvre, mais durant la Deuxième Guerre mondiale, il a eu une attitude absolument immonde, il a écrit des textes antisémite d'une violence incroyable, ce qui prouve qu'on peut être un immense écrivain et un parfait salaud, évidemment.
Exactement. Oui, c'est un personnage très controverti, mais en même temps, comme vous dites, c'est un grand écrivain et ça, c'est, il n'y a personne qui peut le nier, je pense. Est-ce que vous trouvez qu'on aurait dû faire son hommage quand même?
Je pense pas, parce que de toute façon, moi, les hommages, je trouve que c'est pas très intéressant. C'est-à-dire que les plus beaux des hommages sont ceux que les lecteurs rendent aux œuvres. C'est-à-dire que les plus beaux hommages pour un écrivain qu'on puisse lui faire, c'est de le lire, et encore plus de le lire des années, voire des siècles après sa mort. C'est ça le plus bel hommage qui puisse être rendu. Le reste, tout le reste, c'est que des médailles, des décorations. Mais en France, on est un pays de médailles. On adore donner des médailles.
Bon, ben, on vient de nous passer le petit papier, comme quoi il faut abréger, mais on a quand même un peu de temps pour que le public pose des questions à Philippe Claudel. Alors, c'est l'heure de profiter.
Merci.
A ver, lo que acabo de decir es que hay tiempo todavía para hacer preguntas. Si alguien quiere hacerle algún comentario o preguntarle algo a Philippe Claudel, que lo haga ahora o calle para siempre. ¿Hay alguien encargado de pasar? Okay.
Bonjour. Qu'est-ce que vous pensez de Michel Houellebecq? Qu'est-ce que vous pensez de Michel Houellebecq, l'écrivain français, qui vient de gagner le prix Goncourt?
Écoutez, il a écrit de très bons livres que j'ai vraiment appréciés au tout début de ses publications, notamment son premier livre qui s'appelle Extension du domaine de la lutte, que je trouve un livre remarquable. Et puis, en tant que lecteur, je suis plutôt déçu par les derniers livres qu'il a publiés, parce que c'est un peu la répétition des mêmes thématiques et des mêmes constructions, et notamment sur le dernier livre qui est à mon avis plus décevant que les autres. Mais les premiers livres que j'ai lus de lui étaient vraiment, je le trouvais très très intéressant.
Buenos días. Estoy haciendo una suposición, pero una de las cosas que me parece distinguen su película de otras del cine contemporáneo francés es que es mucho menos autocomplaciente. O sea, hay muchos menos tiempos muertos que en otras películas, y hay una preocupación mayor por el guión, por contar con detalles, con acciones, eso que a usted le preocupa. Quería saber si, por un lado, si tenía influencias de otras cinematografías distintas a la francesa, y segundo, algunas de las escenas más hermosas de la película se hacen en el agua, que es un elemento por lo menos más complicado formalmente de filmar. Quisiera que nos contara un poquito de ese proceso, de además de dirigir la actuación de estas actrices, cómo es filmar en el agua para que se vea también así de hermoso y de emocional.
Le cinéma, je pourrais vous citer des dizaines ou des centaines de cinéastes qui ont beaucoup compté pour moi, et là encore je suis nourri d'influences extrêmement différentes. Pour simplifier, je dirais que j'ai toujours été très intéressé par un cinéma de l'introspection, en fait, un cinéma des profondeurs humaines, et un cinéma qui formellement ne laisse pas une grande part, ou ne laisse pas la technique ou la virtuosité technique prendre le pas sur l'humanité qui est transposée ou interprétée par les comédiens. C'est pour ça que dans le film que vous avez vu hier soir, j'ai opté pour un dispositif de filmage qui était d'une grande sobriété. Il y a beaucoup de plans fixes, c'est très peu découpé. J'ai une caméra que je mets très souvent très très près des visages des comédiennes pour essayer de capter le plus possible ce qu'elles donnaient, ce qu'elles exprimaient. Il me semblait que je devais complètement m'effacer en termes de mise en scène, et que le spectateur oublie qu'un homme avait imaginé cela, avait posé une caméra, avait choisi tel angle ou tel focal. Donc ça, c'était important, et j'admire beaucoup certains cinéastes qui, justement, n'essayent pas de montrer au public qu'ils savent se servir d'une caméra en faisant tourner dans tous les sens ou en découpant des scènes alors que ça n'a aucune justification. Si j'avais à citer un cinéaste, par exemple français, je dirais que quelqu'un comme Claude Sauté, qui est un cinéaste qui a beaucoup travaillé dans les années 70, a été très important pour moi parce qu'il a su justement capter avec une grande sobriété cette espèce de fragilité humaine et ces relations humaines qui peuvent être parfois extrêmement conviviales, amicales et parfois douloureuses. Et son cinéma est très élégant, très sobre. Il y a un cinéaste dont j'admire énormément le travail ces dernières années, c'est Michael Haneke, notamment justement dans certains films où il parvient à poser sa caméra toujours à l'endroit exact où elle doit être et où il n'y a pas non plus une volonté de jeter de la poudre aux yeux au public. C'est un cinéma rigoureux, comme on le trouve aussi chez Bergman, par exemple. Concernant la scène dans l'eau, c'était une scène importante symboliquement pour moi, puisque j'avais choisi ce lieu que je connais bien, qui est une piscine ronde. C'est déjà assez étrange, c'est une ancienne piscine thermale. Et retrouver ces deux sœurs dans ce rond d'eau amène à une symbolique, bien sûr, un peu évidente, peut-être un peu grossière, qui est celle du ventre de la mère, avec l'enfant ou ses enfants à l'intérieur. Et c'est la première scène où on sent une réconciliation, en tout cas une proximité qui commence à revenir entre les deux sœurs. Le film ne visait jamais à être esthétique, c'est-à-dire que je n'ai jamais travaillé sur le beau, sur la beauté, sauf dans cette scène-là, où lorsqu'elle est dans sa véritable lumière, donc je le répète peut-être par rapport à ce que j'ai dit hier soir, mais dans des conditions de projection normales, est très belle, c'est-à-dire qu'il y a une très très belle lumière dans cette piscine. Il y a une sorte de voile lumineux et bleuté qui entoure les deux actrices qui sont dépouillées de tout, qui finissent par se ressembler avec leurs cheveux mouillés. Et donc il y a une sorte d'élégance et de grâce naturelle qui les recouvre, qui les enveloppe et qui contribue, je pense, aussi à l'importance de la scène dans le film.
Buenas tardes. ¿Usted qué opina del teatro francés? Por ejemplo, poniendo ejemplo los clásicos del teatro francés que han sido muy contemporáneos e idealizando el absurdo, por ejemplo, desde el Marqués de Sade hasta Albert Camus.
Il est très difficile de parler du théâtre français en général parce qu'il est assez varié. En plus, comme vous me demandez de commenter des périodes un peu anciennes du théâtre français, ça complique encore les choses. Je retiendrai une chose, par exemple, au XXe siècle, c'est que le théâtre français, il y a deux auteurs qui ont contribué à la grandeur du répertoire, qui sont des auteurs d'origine étrangère ou étrangers eux-mêmes, qui sont Ionesco et Beckett. Et j'aime bien parler d'eux et de montrer justement qu'une culture n'est jamais une culture fermée, mais que ce qui fait la richesse aussi d'un pays et de sa culture, c'est lorsqu'elle sait accueillir d'autres voix, venues d'autres langues, venues d'autres sensibilités, venues d'autres horizons. Et cet exemple de grands auteurs qui ont intégrer le répertoire français en théâtre, mais pas seulement, est un exemple intéressant dans mon pays aujourd'hui, où beaucoup ont la tentation plutôt de fermer les frontières, de rejeter l'étranger, de l'expulser, alors que le principe même de la société et le principe même de la culture, c'est d'ouvrir sa frontière, c'est d'ouvrir sa maison, c'est de partager sa table, c'est de partager sa langue, c'est d'accueillir d'autres influences, c'est d'accueillir d'autres couleurs, d'autres sons, d'autres musiques, d'autres imaginaires. Et ça, j'aimerais bien que la France, aujourd'hui, en tout cas certains hommes politiques, s'en souviennent.
Merci. Vous avez dit hier soir que, votre, que dans votre film, ce qui vous intéressait, c'était de développer un univers féminin, parce que vous avez plutôt eu tendance à développer des univers masculins dans vos romans. Or, il me semble que vous avez surtout développé les problèmes de la conséquence de l'enfermement. Est-ce que, à votre avis, il y a une très grande différence? Si par exemple, l'acteur avait été un homme au lieu d'une femme, est-ce que les problèmes auraient été très, très différents?
Non, moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment deux portraits de femmes. C'est deux sœurs, c'est pas deux frères, quand même. Donc...
Mais c'était l'enfermement. Vous avez surtout essayé de montrer ce qui se passe dans une société quand quelqu'un sort de prison et ce que la prison fait sur la conséquence
ça dépend, d'une prison. Ça dépend comment... Le film, si vous voulez, il propose différents parcours, différents trajets. Donc, selon les sensibilités ou les désirs des spectateurs, certains seront plus sensibles au thème de l'enfermement qui existe, effectivement. Hein. Mais je me souviens, pour avoir fait beaucoup de débats, que beaucoup de spectateurs en fait retenaient cette histoire entre sœurs, c'est-à-dire cet éloignement, le fait qu'une grande sœur n'était plus là, que la petite s'est élevée sans elle, et cette espèce de complicité féminine détruite. Donc, et puis on pourrait citer d'autres trajets aussi. Donc ça dépend un peu comment on voit les choses, quoi. Mais pour répondre précisément sur cette thématique. Je pense que la prison ne travaille pas en fonction des sexes. Et cette espèce de lente destruction ou d'érosion de la personne ou de la personnalité existe aussi bien chez l'homme que chez la femme. Donc sur ce point précis, ça n'aurait pas changé grand-chose, hein, que ce soit un homme ou une femme. Mais ça aurait tout changé pour moi, puisque je n'avais pas du tout envie de faire un film d'homme. C'était vraiment un film... avec des femmes que je voulais faire.
¿Cree que existe alguna forma de llevar al cine la nieta del señor Lee? ¿Lo haría?
Non, c'est un projet sur lequel j'ai travaillé à la demande de producteurs il y a quelques années, parce qu'il y avait deux metteurs en scène qui voulaient en faire un film. Donc j'ai fait un scénario à la demande des producteurs, et ensuite il y a eu une mésentente entre les metteurs en scène et les producteurs, et le projet s'est arrêté. Les producteurs ensuite ont souhaité que je le réalise moi-même, mais après avoir réfléchi assez longuement, j'ai refusé. Ça ne m'intéresse pas en fait d'en faire un film. Ça ne m'intéresse pas de faire des films avec les romans que j'écris. Parce que si j'ai choisi d'en faire des romans, c'est que ça me paraissait évident que ça ne pouvait pas être autre chose que des romans. Donc peut-être que si jamais quelqu'un avait le désir de faire un film avec ce livre, je m'y opposerais pas, ça ne me dérange pas. Mais en tout cas, moi, j'en ai pas le désir.
Je veux dire premièrement merci pour le film, parce que c'est très bon et je pense que c'est une vision très importante de comme voir la vie et aussi les papiers d'une mère, et c'est très beau pour ça. Et je me rappelle quand il y avait un personnage qui se suicide et que il était un peu obsessionné avec les orinoques. Et je veux te demander pourquoi les orinoques, parce que pour moi c'est une rivière. Alors tu peux choisir les Nils, quelque chose comme ça, pourquoi les orinoques?
Lorsqu'on est français, l'orinoque c'est très loin de la France. Et puis surtout, je pense que si vous demandez à 1000 Français où se trouve l'orinoque, il y en a sans doute 980 qui ne sauront pas du tout vous dire exactement où se trouve l'orinoque. Ils vous diront c'est loin, c'est sans doute en, c'est peut-être en Amérique du Sud, mais voilà, ça n'ira pas plus loin. Donc, c'est un terme qui est un terme presque imaginaire. C'est un fleuve, c'est un nom de fleuve qui fait rêver. C'est un nom de fleuve lointain. Et pour ce personnage, c'est l'incarnation finalement d'un rêve inaccessible. C'est comme, vous savez, la plupart de ces gens qu'on connaît sans doute, qui ont l'impression que, étant mécontents de leur vie qu'ils connaissent, le fait de partir loin, ça va changer les choses. Bon, ben lui, c'est ça. Il y a ce rêve d'aller vers l'Orénoque. Et il y a aussi une raison simple, c'est que pour moi, ce terme, ce nom de fleuve a toujours été un des plus beaux noms de fleuve que je connaisse. Il y a des lieux qui nous font rêver. La géographie m'a fait beaucoup rêver. Et parmi la géographie, parmi les noms de géographie, les noms de lieux ou de fleuves, l'Orénoque tient dans mon imaginaire une place importante.
Me dicen que ya no podemos hacer más preguntas, que el tiempo se acabó, entonces podemos darle un fuerte aplauso a Philippe Claudel.